informations que vous venez de partager avec nous. Et sans tarder, nous entrons dans la deuxième phase de cette conférence de presse qui est la séance des questions et réponses. Vous connaissez la règle, vous pouvez éteindre vos téléphones, vous mettez-les sous silencieux et identifiez-vous. Je rappelle que nous avons dans la salle, à partir de Kinshasa, les collègues de l'équipe pays, mais aussi ici à Goma, nous avons Mme Taz Grady, qui est la chef de la section BD3R de la MONUSCO. Nous commençons par Kinshasa. Trois questions à Kinshasa avant de revenir à Goma.
Les femmes tout d'abord.
Kinshasa, la parole est à vous.
Les femmes d'abord. Il y en a quelqu'un. Ici à gauche.
Bertine Yuzi, Numérica TV. Ma question, je la pose à Martin Kobler. Demande et la démission du représentant spécial en Centrafrique. Quelle lecture vous donnez à cette demande et démission ? Parce que ce n'est pas peut-être lui qui n'a pas commis, pourquoi vous lui demandez de démissionner? Quelle lecture vous donnez à cette décision très forte, demander à quelqu'un de démissionner? C'est ça ma préoccupation.
Voilà, c'est, comme vous avez dit, ce n'est pas une responsabilité directe du représentant spécial, soit au CAR, soit en RDC, mais c'est une responsabilité institutionnelle. Et je suis tout à fait derrière ce principe de responsabilité institutionnelle. Je suis responsable comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour toutes ces choses qui ne marchent pas dans la mission. Je ne peux pas dire alors c'est mon adjoint ou c'est la force. Et le secrétaire général a clairement envoyé ce signal ici. Il n'a pas demandé la démission du commandant de la brigade ou de la du bataillon, même pas la démission du commandant de la force au CAR. Non, c'était le représentant spécial, mon collègue. Parce que nous avons, comme représentant spécial, la responsabilité politique pour tout ce qui se passe dans la mission. Et je l'accepte, j'accepte aussi, si quelque chose vraiment est ici dans la mission qui ne marche pas, on a des événements où quelqu'un est responsable, pas le SNSG aussi, alors je peux imaginer une situation où je dois résigner, c'est comme dans tous les pays. Si vous avez dans un pays X, alors un ministre à la tête d'un ministère, ici, on a un cas de corruption très fort. Tout le monde attend aussi le ministre de démissionner, non? Alors c'est la même chose avec dans les Nations Unies, la responsabilité institutionnelle du chef de la mission. Et aussi, je suis derrière ce principe, je le soutiens.
David, tu passes le micro ici, ici, devant, celui-là.
Merci. Jean-Pierre, RTG ATV. Une question à Martin Kobler. Le week-end, vous étiez également au camp Baouma à Kisangani. Vous y avez visité les ex-combattants et dépendants FDLR. Vous menacez enfin de suspendre votre aide humanitaire d'ici la fin de la première quinzaine de septembre. Du coup, je me pose des questions. Que deviendront ces ex-combattants et leurs dépendants? Y a-t-il de pourparlers en cours avec Kinshasa pour la relève? Au cas contraire, êtes-vous conscient des conséquences que la suspension de cette aide pourrait avoir sur la ville? Mais pourquoi ne pas faire une sorte de pression politique sur Kigali pour qu'il ouvre l'espace politique et recevoir ses ressortissants? Parce que j'imagine à mon niveau que c'est la solution en amont que contraindre, enfin, à faire tout ce que vous faites. Merci.
Voilà, merci bien pour la question. Je n'ai pas menacé, j'ai annoncé. C'est une différence. Hein. Et la question, c'est beaucoup plus large que le camp Baouma. Ça concerne le soutien de la MONUSCO pour tous les ex-combattants dans toute la République. Ça concerne les le Kamina, Kitona, Baouma aussi, Kanyabayonga, Valongo. Je vais demander à TASS d'ajouter quelques mots ici. La MONUSCO soutient maintenant tous les camps de DDR ou DDRR, comme Camp Auma. Ce sont 6800 ex-combattants qui sont là, et c'est une responsabilité du gouvernement. Les camps ne sont pas gérés par la MONUSCO, non. Les camps sont gérés par le gouvernement. Mais la MONUSCO a assisté au gouvernement de les nourrir à Kamina, à Kitona, aussi au camp Bahuma. Et justement, la raison, on ne peut pas continuer dans tous les camps. Alors, on n'a pas d'argent. Ça nous coûte 2 millions de dollars par mois. Ça nous coûte 2 millions de dollars par mois. Ce n'est pas notre tâche, ce n'est pas notre obligation. C'est le gouvernement qui doit prendre charge. Et on doit arrêter parce qu'on n'a pas, on a plus de moyens. On doit arrêter le soutien logistique pour tous ces camps. Alors, c'est pas une chose qui cible maintenant Camp Ahuma. C'est une politique générale que justement maintenant, alors on a plus d'argent pour faire ça. Mais j'ai pris l'occasion au Camp Ahuma de parler avec les ex-combattants des FDLR aussi. Je les ai encouragés de rentrer via le processus de DDRR dans leur pays. Le problème de Camp Ahuma peut être résolu dans un jour. Notre Tass Grayling va vous expliquer dans un moment qu'on peut les rapatrier au Rwanda pendant 3 jours. Alors, ce n'est pas un problème de nourriture, c'est un problème d'être rapatrié par le processus de DDRR. C'est beaucoup plus facile qu'à Kamina ou à Kitona, où on a des milliers des ex-combattants de l'Est. Camp Ahuma, ce sont les ex-combattants des FDLR. Ils peuvent rentrer au Rwanda via le processus de DDRR. Ils peuvent être rapatriés. On peut l'arranger d'un jour à l'autre. Alors, c'est une situation spécifique ici à Camp Ahuma. C'est beaucoup plus facile à régler. Mais ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas rentrer au Rwanda. Mais ils pourraient rentrer au Rwanda via le processus de rapatriement. C'est assez clair. Et j'avais une discussion avec eux, avec les dirigeants aussi, avec les leaders, avec aussi les mamans par là, avec les adolescents. Et je leur ai demandé, je les ai encouragés vraiment de prendre l'occasion de notre offre alors de rentrer au Rwanda. Tass, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ça?
Oui, Tass, vous avez quelques informations supplémentaires?
Je vais ajouter, je vais séparer les sujets. Concernant Kamina Kitona et le programme national du DDR, à l'heure actuelle, on a 3556 personnes à Kamina et 2254 personnes à Kitona. La semaine dernière, Martin Kobler a eu une réunion avec le Premier ministre et suite à ça, le ministère de Défense nous a appelé en annonçant que le gouvernement allait verser 1,5 million de dollars américains vers le programme. Et le plan est que à partir du 15 septembre, le MONUSCO approvisionne le dernier repas dans ces deux camps. Et le 16 septembre, le gouvernement reprend la relève. Donc, on veut féliciter le gouvernement congolais pour cet versement. C'est la deuxième tranche, la deuxième preuve d'engagement vers la programme. Et on appelle à toute la communauté internationale d'ajouter leur contribution envers le Trust Fund du Banque mondiale, parce que c'est qu'avec plus de financement et plus d'engagement d'une part du gouvernement congolais et de l'autre part de la communauté internationale que ce grand programme qui vaut à peu près 85 millions de dollars va avoir de réussite. Donc, à partir du 16, pour être clair, l'alimentation va continuer sans interruption, mais ça sera repris en charge par le gouvernement congolais. Si je parle des camps avec les ex-combattants et leurs dépendants étrangers, surtout le FDLR, surtout à Kisangani, Kanyabayonga et Wanungu. À l'heure actuelle, on a 1336 personnes dans ces trois camps. Et comme Martin a dit, c'est simplement un changement, un transfert de responsabilité de la MONUSCO au gouvernement congolais. Donc à partir du 1er octobre, le gouvernement congolais va prendre le relais et prendre en charge tout ce qui est alimentation dans ces trois camps. Entre-temps, la journaliste qui a posé la question initiale a demandé quelle est la position, pourquoi on ne cherche pas les solutions auprès du Rwanda. Il faut que le gouvernement congolais catégorise ces personnes ex-FDLR et leurs dépendants. Ces personnes sont libres. Ces personnes peuvent tous choisir maintenant d'aller avec nous et pour repartir au Rwanda. Et le Rwanda les accueille. Et le Rwanda a une capacité d'un coup d'accepter jusqu'à 2000 personnes à travers le programme DDR rwandais. Donc le problème n'est pas Rwanda et le problème n'est pas le programme DDR et le problème n'est pas le gouvernement congolais. Le problème c'est le FDLR qui empêche ces gens de quitter les camps. Donc, j'appelle et je soutiens le message de Martin Kobler, mais j'appelle à toutes ces personnes dans ces trois camps et à les gens qui peuvent influencer le FDLR à laisser ces gens. La plupart, ils veulent rentrer chez eux. Ils sont empêchés par le FDLR et ils ont un moyen de sortir tout de suite s'ils en veulent.
Merci Stas pour ces informations additionnelles. Nous restons
Permettez-moi d'ajouter une chose, un message que nous avons eu, Taz du DDR et moi. J'ai vu beaucoup d'enfants dans le camp Bahuma maintenant. Alors, des centaines d'enfants, ceux qui sont nouveau-nés. Et j'ai dit aux parents, c'est un crime contre les enfants de les laisser ici et de n'accepter pas l'offre ici de DDR d'être rapatriés en Ouganda. Ce sont quels parents? Quels parents laissent des enfants dans un camp sans scolarisation, dans des états hygiéniques qui ne sont pas acceptables ou difficiles à gérer? C'est un crime contre les enfants par là si les parents n'acceptent pas l'offre d'être rapatriés au Rwanda. C'était un message très très clair. Vous devez y aller. On a des centaines d'enfants qui sont là, sans école, justement ça, dans des conditions qui sont difficiles. Vous connaissez Kisangani. C'est beaucoup plus chaud que Kinshasa. C'est un crime de les laisser ici et de n'accepter pas l'offre de rentrer. Alors, on peut discuter toutes les autres choses, mais ici, j'étais très, très émotionnel, comme maintenant ici aussi avec eux. Alors, il faut vraiment saisir cette opportunité de rentrer au Rwanda ici. Merci.
Dernière question.
Merci,
ici.
Nous restons à Kinshasa, oui.
Oui, une dernière question avant de passer la parole
dernière
à
dernière question.
Oui, Anthony Chamba pour le compte de Réga Télévision. Monsieur Martin Kobler, à ce que je sache, la MONUSCO, c'est la mission de Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, du Congo RDC. Mais si on regarde de très près, la RDC commence petit à petit à perdre sa stabilité. Comment les élections des gouverneurs prévues d'ici là? Maintenant, là, c'est un imbroglio, c'est un embrouillamini. On ne fait qu'aller de report en report. Et puis, bon, certains observateurs disent que la loi portant répartition des sièges votée à l'Assemblée nationale et en dernière minute au Sénat, c'est une loi qui va beaucoup plus apporter des complications que des solutions. Or, vous êtes là, la MONUSCO, pour la stabilisation de la RDC. On a comme l'impression, la MONUSCO dit, elle n'est là que pour les élections législative et présidentielle. Pour le reste, on laisse Kinshasa se débrouiller. Est-ce que vous êtes en train de stabiliser la RDC ou de la déstabiliser? Merci.
Voilà, merci bien pour la question. Je ne peux pas partager votre avis que la RDC est en voie d'être déstabilisée. En particulier, si vous voyez à l'Est, alors je vous ai dit qu'on a alors des efforts de la stabilisation ici, ça marche très bien. Si vous comparez Goma et l'Est au mois d'août 2015 avec mois d'août 2013 où je suis venu ici, alors c'est beaucoup plus stable que maintenant. Vous avez Goma avec une économie vibrante, vous avez maintenant Ethiopian Airlines, vous avez Kenya Airlines qui utilise l'aéroport. Vous avez naturellement des zones d'instabilité, mais même dans les territoires des ADF, c'est maintenant vers la frontière d'Ouganda, c'est ce que je vous ai dit, alors c'est beaucoup plus stable, 110 000 déplacés internes et réfugiés sont rentrés. Si vous voyez d'autres régions aussi, alors on peut citer la même chose. Maintenant, en ce qui concerne les élections, vous avez dit alors la focalisation sur les présidentielles et les législatifs au mois de novembre 2016, c'est quelque chose. Il faut aussi avoir la focalisation sur les locales. Je crois qu'il faut rapidement déterminer le calendrier électoral qui est réaliste et faisable. Et puis, c'est un processus naturellement difficile. On a quelques problèmes qui sont ouverts, c'est le budget. Mais il faut avoir tout d'abord la décision de la CENI ou au consensus parmi les forces politiques de déterminer un calendrier électoral qui est réaliste. Je ne sais pas si c'est réaliste d'avoir au mois d'octobre des élections locales. Hein. Je suis maintenant ce soir en train d'aller à Genève pour une réunion avec les envoyés spéciaux des Grands Lacs, Saïdjine, Tom Perriello et les autres. Nous allons discuter ce problème. Notre position est très claire. La Constitution doit être gardée. Les législatifs, les présidentielles doivent prendre place au mois de novembre 2016. Et troisièmement, tout ce qui est entre maintenant et novembre 2016 ne doit pas mettre en danger le date de novembre 2016, les élections présidentielles. Nous n'interférons jamais dans les affaires domestiques du pays, mais nous avons notre position que la Constitution devrait être gardée. Et la Constitution dit très clairement, alors novembre 2016 pour les législatifs et les présidentielles, c'est une position que nous avons. Nous allons discuter avec les autres envoyés spéciaux à Genève après-demain le calendrier électoral. C'est très important d'avoir un consensus sur le calendrier réaliste et finançable. Hein. Il faut aussi financer les élections, c'est très clair. On a quelques modèles. La MONUSCO est impliquée avec la CENI ici dans le cadre de planification des élections. J'ai parlé avec beaucoup des leaders ici politiques, le Premier ministre et les autres sur le financement. La question de nouveaux majeurs est aussi sur la table. Le président a dit qu'il faut inclure les nouveaux majeurs. Alors, je crois que c'est très bien parce que l'OIF, la délégation, a dit qu'on a 8000 nouveaux majeurs ici. Alors, d'avoir des élections sans les nouveaux majeurs, c'est quelque chose qui c'est votre décision, mais je comprends ceux qui disent alors il faut inclure les nouveaux majeurs ici dans les élections. Encore une fois, le respect pour la Constitution est très important. La communauté internationale se focalise sur les législatifs et les présidentielles et alors en somme, la situation en particulier à l'est du pays est beaucoup plus stable qu'il y a 2 ans. Merci.
Goma, à vous.
Merci. Retour ici à Goma pour prendre 3 questions. Nous commençons par la droite, oui.
Merci, c'est Norbert Mouzoua pour la radio-télévision Graben et le journal Emergence. Monsieur Kobler, aux yeux de la communauté internationale, les FDLR cantonnés dans le site de Kisangani, de Walungu, également de Kanyabayonga, sont devenus des fardeaux lourds pour des raisons budgétaires, comme vous l'avez dit. Est-ce que quand vous aviez monté des stratégies pour leur cantonnement, vous n'avez pas prévu un plan B pour pouvoir remédier à cette situation?
Monsieur Kobler?
Voilà, Tass et moi élaboré sur ça. La situation est très très claire, la stratégie est très très claire pour ces camps. Ce sont des étrangers dans le pays, ce sont des camps qui sont gérés par les Congolais, par le gouvernement congolais. Ils sont responsables pour les camps et notre stratégie, c'est de leur offrir d'être rapatriés au Rwanda. Ça, on peut le faire, comme Tass a dit. Alors, on a un accord avec les Rwandais de rapatrier immédiatement 2000 personnes. Il faut accepter cette offre.
Merci. Nous restons toujours à Goma. Une question au fond de là.
Oui, merci, c'est Isaac Mbweza. Pour le Congo Opportunities Media, je pose ma question à M. Kobler. Vous avez déclaré au début de cette conférence, quand vous avez pris la parole, que vous avez eu des entretiens avec les autorités congolaises pour le retrait progressif de casque bleu en République démocratique du Congo. Bon, ma question est de savoir, sur place ici à l'Est, il y a des villages où on ne trouve pas la présence des forces de l'ordre congolaises, mais par contre on trouve la présence des casques bleus. Je reprends le cas de Dungu. J'étais à Dungu en 2009 au mois de janvier, après le massacre de Zerera sur la population à la nuit du 24 décembre 2008. Et à Dungu, à ce moment-là, on a constaté aucune présence ni de forces armées congolaises, ni de la police nationale congolaise. Et je voudrais un peu savoir qu'est-ce qui justifie l'insistance du gouvernement congolais sur les retraits des troupes policières au moment où la partie Est n'est pas encore totalement pacifiée. Merci.
Voilà, merci bien. Question du retrait de la MONUSCO, ça dépend de quelques facteurs, de quelques éléments. Et vous avez énoncé l'exemple de Dungu. J'étais à Kamango, j'étais à Mutarule maintenant il y a quelques jours. C'est premièrement la réduction de la menace, naturellement. Alors, on peut se retirer des territoires où la menace des groupes armés était réduite et la situation de sécurité était améliorée. Deuxième point, le retrait de la MONUSCO et des troupes de la MONUSCO, ça fait du sens seulement si on a la restitution de l'autorité de l'État. C'est comme vous avez dit, c'est la police nationale, c'est les FRDC qui doivent être rentrés pour remplacer le vide. Ce que j'ai vu par exemple maintenant à Kamango, c'était on a 100 000 personnes, on a 7 km², mais on a seulement 7 policiers de la PNC. C'est pas suffisant. On a quelques FRDC, on a quelques policiers, c'est pas suffisant. Alors deuxième élément, c'est la restitution de l'autorité de l'État. Et puis on doit discuter avec le gouvernement quand c'est le temps de se retirer. Troisième élément, c'est la situation ici pour une retraite substantielle dans le pays entier. En particulier, c'est la résolution, on le dit, de 2011. La situation par rapport aux élections, mais la situation politique en général. L'objectif stratégique, c'est ici, alors de vraiment, si on part ici du Congo, on ne veut pas être forcé de rentrer. C'est si on est parti, la situation doit être stabilisée, que la restitution de l'autorité de l'État soit faite, et aussi les groupes armés réduits pour une mesure où les FRDC et la police nationale peuvent le gérer vous-même.
Merci. Nous allons rendre l'antenne à Radio Okapi. Toutefois, nous poursuivons cet échange encore pour une dizaine de minutes. Une troisième question ici à Goma.
C'est Victor Bigatti pour le Monde du Journal Hebdo de l'Est. Je pose toujours ma question au major du Gonçalves.
Gonçalves,
je m'excuse de m'affaire votre nom. Êtes-vous informé d'une incursion de l'armée ougandaise à Nyamilima, dans le territoire de Rutshuru, vers la rivière Sarambwe?
Alors, merci monsieur le journaliste. Cette information, vous venez de nous la prendre. Cependant, comme je vous l'ai déjà expliqué, les informations remontent la chaîne de la hiérarchie et sont contre-vérifiées par les opérations avant que nous soyons autorisés à vous les livrer. Merci.
Merci. Donc, nous allons à Kinshasa pour prendre deux questions. Kinshasa.
Oui, madame. Il n'y en a pas? Oui, madame.
Laetitia Massela, RTNC2 Développement. Ma question est posée à Martin Kobler. La chronique nationale a été marquée la semaine dernière par le début du procès entre le comité Bantou et Pygmin au Katanga. Quelle avancée ces problèmes a-t-il connu à ces jours? Merci.
Encore une fois, j'ai pas compris la question tout à fait. Encore une fois, c'était quoi au Katanga?
La chronique nationale a été marquée la semaine dernière par le début du procès entre le comité communauté plutôt Bantou et Pygmin. Pygmin au Katanga. Quelle avancée ces problèmes a-t-il connu à ces jours?
Voilà. Je le laisse au porte-parole. Peut-être il a plus d'informations sur ça. Le conflit Pygmé-Louba, c'est vraiment dans mon agenda. J'étais plusieurs fois par là pour faire un peu la médiatisation entre les Pygmé et les Louba. Et notre bureau à Kalemi, c'est leur travail quotidien ici. On est toujours en contact avec le gouvernement. Ça nous inquiète beaucoup. L'autre jour, j'étais à Nyunzu pour voir les 5000 déplacés internes des Pygmées par là. C'est un conflit qui doit s'arrêter. Je ne suis pas totalement informé sur où nous sommes avec le comité. Peut-être le porte-parole a des informations plus précises.
D'abord, il faut au passage saluer l'implication des autorités locales et provinciales dans la résolution de cette crise qui, comme vous le savez, est un vieux conflit intercommunautaire entre les Pygmées et les Louba. Et aujourd'hui, une accalmie relative a été observée suite aux efforts qui ont été consentis aussi bien par la MONUSCO que par les autorités locales. Et les gens sont en train de travailler, de mettre en synergie leurs efforts pour arriver à pacifier et à faciliter une coexistence pacifique entre ces deux communautés. Nous suivons de très près cette situation-là et nous espérons que les gens arriveront à pacifier ces deux communautés qui devront vivre en paix pour le bien de cette région. Nous restons toujours à Kinshasa pour une deuxième question, s'il vous plaît.
Oui, une question au fond.
Merci pour la parole, c'est Saint-Florian Katumba, l'explorateur. J'ai une préoccupation auprès de M. Kobler. Il y a un pré-dialogue en cours en Europe et qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que la MONUSCO peut éclairer l'opinion publique concernant les tenants et aboutissants de ce pré-dialogue en Europe?
Voilà, je suis en contact avec toutes les forces ici aussi de l'opposition. Hein. Je parle aussi avec le PDS et tout ça, et naturellement nous sommes informés qu'est-ce qui se passe par là. Mais c'est pas l'endroit maintenant alors de vous dire où nous sommes ici. C'est ce que vous demandez à UPDS par là en Europe. Moi je parle avec UPDS, avec tout le monde, MLC, avec les autres opposants aussi, alors parce que je crois que c'est maintenant temps de décider comment vraiment avancer sur le chemin d'élections. Il faut vraiment avoir une discussion afin de ne pas avoir un glissement ici des élections. C'est très important. Alors de maintenant, ciblé le novembre 2016 et on a encore beaucoup de temps. C'est mon message pour l'opposition et pour tout le monde ici. On a encore beaucoup de temps. Nous sommes au mois d'août 2015 et novembre 2016. Alors c'est encore 15 mois. Il faut utiliser le temps maintenant. Opposition, UPTS en Europe, ici, partout. Alors afin de vraiment avancer sur le chemin d'avoir des élections possibles, donner aussi l'espace à l'opposition, c'est très important, d'ouvrir les discussions, de donner l'espace à l'opposition pour avoir des élections paisibles ici dans le pays.
Alors, une dernière question ici avant de rendre la parole à Romain. Ici. Ici, David.
Merci, Thierry Maï de l'Agence congolaise de presse. Monsieur Kobler, vous avez parlé de votre campagne de sensibilisation au sujet de l'exploitation et d'abus sexuels. Je voudrais vérifier les chiffres. Vous avez parlé de 54 cas en 2009 et 13 en 2014. Également 8 cas jusqu'au mois d'août. C'est où? En RDC? Parce que si vous avez dit qu'un cas, c'est un cas de trop, 13, c'est plus que trop. Quelle est la situation exacte?
Voilà, ce sont les chiffres de la RDC. Un cas est un cas de trop. Je dois dire, ce sont des allégations. Les investigations sont parfois pas finies. C'est toujours des allégations que quelqu'un a dit, alors quelque chose, c'est pas ça. Alors on ne peut pas dire comme un juge, c'est décidé, hein. Alors c'est pas encore terminé les investigations. Chaque cas est chaque cas de trop. Pour des cas d'exploitation et abus sexuels de nos civils, de nos policiers et de notre force ici. Mais alors nous vivons dans un monde réaliste. Chaque cas de meurtre est un meurtre de trop. Mais les prisons ici en RDC sont pleines de meurtriers. Alors nous vivons dans un monde réaliste, il faut vraiment avancer sur notre politique de la réduction de ces cas. Et il faut voir la tendance. Si on a des dizaines de cas 2009, je suis arrivé au mois d'août 2013, on a vraiment substantiellement réduit ces cas. Hein, ce sont des allégations dans cette année, 8 allégations ici commis par civils, troupes et policiers ici dans la RDC. Mais comme ici, dans toutes les sociétés, alors nous sommes les êtres humains, on a des viols ici aussi à l'Est du pays, je le vois tout le temps, des femmes qui ont été violées par des Congolais. Alors on ne peut pas l'exclure, comme je dis aussi avec les autres actes criminels. Chaque meurtre est un meurtre de trop, mais on a des meurtres qui sont commis. Mais croyez-moi, on fait tout ce que nous pouvons maintenant. Et ce tour qu'on avait ensemble avec le commandant de la force, le commandant de la police et moi, pour vraiment sensibiliser les civils, pour sensibiliser les policiers, pour sensibiliser la force. Alors c'est vraiment un effort très très fort. Alors pour tout le personnel de la MONUSCO, de vraiment de continuer à le réduire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on a des allégations de 8 cas, ce sont 8 allégations de trop. Il faut travailler ensemble avec nos collègues ici pour le réduire jusqu'au zéro.
Goma, à vous.
Retour à Goma pour deux questions. Donc, une question ici à la gauche, sur la gauche.
Ok, ma question s'adresse directement à vous, monsieur Félix Bass. C'est par rapport aux allégations des journalistes qui voulaient avoir des précisions sur des questions politiques ou militaires. Et qu'en est-on de cette conférence mixte entre le gouvernement et les autorités de la MONUSCO? Merci beaucoup.
Je suis au regret de vous dire que je ne suis pas au courant de cette conférence de presse qui est prévue entre les autorités gouvernementales et la MONUSCO. Si vous pouviez nous édifier sur le sujet ou sur l'objectif de cette conférence de presse.
C'était une suggestion par rapport avec Martin Kobler.
Ah oui, mais je pense que M. Martin Kobler accueillerait avec bonheur une conférence conjointe avec les autorités congolaises si toutefois l'idée faisait son chemin et que la requête était soumise à M. Martin Kobler qui est en direct avec nous. Et je pense qu'il a peut-être une information supplémentaire à donner là-dessus. Monsieur Kobler, seriez-vous prêt à avoir une conférence de presse avec les autorités congolaises?
Ben oui, il faut communiquer avec les autorités congolaises. Je suis tout à fait prêt toujours d'être ensemble ici sur le dialogue stratégique et sur les autres sujets qui nous intéressent. Nous avons une coopération très très étroite, je dois dire. Je suis très heureux que nous avons cette coopération étroite avec le gouvernement ici, sur tous les niveaux, sur mon niveau, le niveau de mes collègues. Pas d'objection de faire des conférences ensemble.
Merci. Donc, la cause est entendue. Donc, nous prenons une deuxième question ici à Goma.
Oui, merci. C'est Maurice Nwiko de Misha People's TV. Ma question s'adresse à Martin Kobler. Les FDLR avaient été priés d'adhérer ou de marier ces programmes de reddition volontaire. Et aujourd'hui, vous leur lancez un appel que vous ne voulez pas dire, une menace de mettre fin à leur ration. Est-ce que vous ne craignez pas que les FDLR, qui sont encore plus nombreux dans les forêts, n'adhèrent plus jamais à un programme quelconque de reddition?
Voilà, je connais cet argument et je l'ai discuté aussi avec les ex-combattants des FDLR. Je ne crois pas, on n'a aucun danger de rentrer au Rwanda maintenant ici, c'est ce que je leur ai dit. On a, depuis 2002, on a rapatrié 12 000, je répète, 12 000 des FDLR au Rwanda. 12 000 ex-FDLR Rwanda, on a rapatrié depuis 2010. Je crois que ça fait preuve alors du fait, alors ils ont été réintégrés. J'ai même offert aux ex-combattants des FDLR, moi-même, d'aller avec une petite délégation avec eux au Rwanda pour voir les camps au Rwanda et puis rentrer et sensibiliser les autres ex-combattants. Ils n'ont pas accepté cette offre. Je ne l'ai fait pas pour la première fois maintenant le samedi dernier. Je l'ai déjà fait il y a un demi-an. Je l'ai fait il y a quelques mois. Ils n'acceptent pas cette offre d'aller avec moi au Rwanda. Nous les protégeons. Nous avons la garantie de rentrer. Ils peuvent dire aux collègues, alors qu'est-ce que se passe par là? Je crois qu'on a d'autres raisons ici. Je ne peux qu'encourager et vraiment les supplier, les FDLR, vraiment d'aller ensemble avec nos collègues des DDR, et vous voyez Task Railing ici, alors de rentrer au Rwanda le plus vite possible, d'éviter des problèmes ici.
Merci. Nous prenons une dernière question à Kinshasa.
Alors, ici, à côté.
Oui, Albert Omba, Numérica TV. Je reviens encore sur le problème des FDLR. Monsieur Kobler, est-ce que vous avez pu harmoniser le contact entre la presse et le camp Bauma parce que depuis Kanyabayonga, la presse n'a pas accès au camp Bauma pour voir l'évolution, peut-être sensibiliser les FDLR pour qu'on puisse aboutir à leur départ.
Oui, je crois que c'est une bonne idée, Félix, d'arranger ensemble avec le, si le gouvernement est d'accord. C'est pas notre camp, hein. Alors, de proposer au gouvernement d'arranger une visite presse à Camp Bauma. On n'a pas d'objection sur ça, mais je dis encore une fois, c'est un camp qui est géré par le gouvernement. Et il faut l'arranger avec le gouvernement. Je crois que c'est une bonne idée. Merci. Merci bien.
Goma, à vous.
Merci. Fin de cette conférence de presse. Voilà. Ça va bien.